chanson me fait penser à du talc. Bonjour à tous. Nous sommes toujours avec vous, mais en direct de cette région de Provence. Cette région de Provence qu'on appelle le Capitoun des Merveilloux, la capitale des merveilles. Ici, la terre ne ment pas. Ici, un sou, c'est un sou. La vertu du silence, la simplicité des gens vrais, les mains calleuses sur les dos nus, les embrassades franches. Hier soir, le père François, un agriculteur honnête, m'a confié qu'il avait mis 90 ans à se faire accepter, mais que maintenant, ça y était, on le saluait au village. Le boulanger fait du vrai pain et de la vraie farine et met des vraies claques à ses faux enfants. Le facteur passe tous les ans. Oh, il n'y a pas beaucoup de lettres ici. Les choses, on se les dit en face. Et puis dans les vignes, on fait un vin. Oh, ça n'est pas un vin comme à Paris, un vin où on dit « Oh, il est nature, il a du cuir, il a de l'ombrelle ». Non, ici, il pèse bien ses 14,5. Et je peux te dire que quand tu t'en mets une, c'est ce qu'on a fait hier.
Plus près de toi.
Plus près de toi.
Plus près de toi.
Très, très près.
Plus près de toi.
Très, très, très près.
C'est le titre de l'émission.
Vous avez eu l'heure, non?
Juste avant d'aller à l'école, c'est parfait.
7h, 9h, plus près de toi.
7h, 9h, Édouard Baird.
J'en mangerai. Je vous jure, ça vaut le coup.
Bonjour à tous. Voici en duplex Thierry Parel, journal de 7h02.
Radio Nova.
Salut Edouard, bonjour tout le monde. La Corée du Nord a procédé apparemment à une nouvelle série de tirs de ce qui semble être des missiles solaires. voilà, c'est le quatrième tir nord-coréen en moins de 5 semaines. Ouais. Alors que de nombreuses résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU interdisent à Pyongyang de poursuivre ses programmes balistiques et nucléaires. Et ça porte ses fruits, visiblement. Et Washington menace toujours le pays, évidemment, d'une intervention militaire. Le témoignage accablant de l'ex-directeur du FBI contre Donald Trump dans une déclaration écrite au Congrès et mise en ligne, James Comey, explique que le président américain lui a demandé de faire machine arrière dans une enquête sur l'éphémère conseiller à la sécurité nationale de la Maison Blanche, Michael Flynn. Ce que l'on redoutait s'est confirmé hier. L'attentat de Londres a fait donc 7 morts, dont 3 Français, et non plus 2. Hein, le corps d'un troisième ressortissant français qui était porté disparu depuis l'attentat a été retrouvé dans la Tamise. Les Britanniques sont appelés aux urnes ce jeudi pour le premier tour des législatives. Un climat évidemment tout à fait particulier compte tenu des attentats de Londres et de Manchester. La première ministre britannique Theresa May espère une majorité renforcée pour les conservateurs avant d'entamer les négociations sur le Brexit, mais rien n'est moins sûr parce que les questions sécuritaires ont dominé les derniers jours de la campagne. Crédité de 42% des intentions de vote contre 38% pour les travaillistes, les conservateurs pourraient ne pas obtenir la majorité absolue. L'Iran, qui n'est plus un sanctuaire, 2 attaques coordonnées revendiquées par Daesh ont fait au moins 12 morts et plusieurs dizaines de blessés hier à Téhéran. D'abord au Parlement et puis au mausolée de l'ayatollah Khomeini où 2 kamikazes se sont fait exploser. Le groupe djihadiste sunnite n'avait jamais encore revendiqué d'attentat au cœur de l'Iran chiite. De leur côté, les gardiens de la révolution iranienne ont accusé l'Arabie Saoudite d'être derrière ce double attentat qui intervient en pleine crise régionale avec le Qatar, soupçonné de soutenir l'Iran. Le Qatar qui d'ailleurs a sollicité l'Iran, mais aussi la Turquie, afin d'éviter toute pénurie en eau et en nourriture à la suite de la rupture de toute relation avec ses voisins immédiats. Gel coiffant, fixation blindée Viveldop, spray solaire pour enfants, billes pour les yeux L'Oréal Men. Je suis pas en train de vous faire une page de pub. L'association UFC Que Choisir a annoncé avoir repéré 23 produits cosmétiques mis en vente qui incorporent dans leur formule des substances rigoureusement interdites. L'association réclame le retrait immédiat de ces produits. Par exemple, un de ces produits est un fond de teint sous forme de poudre minérale qui contient de l'isobutylparabène. C'est un perturbateur endocrinien avéré et qui est interdit.
C'est ce que je dis, oui.
Mais tu le dis tous les jours, c'est pour ça que j'en parle.
Je le dis à MLM tous les matins.
Mais bien sûr, tous les matins. Bien sûr.
Il est couvert de ce truc-là. Ouais, et je crois que c'est un produit, il y a des vrais morceaux d'enfants dedans.
Mais il faut lui dire, il faut lui rappeler encore. Hein. Et c'est un produit qui est pourtant interdit dans toute l'Union Européenne depuis maintenant 2 ans quand même. Hein.
Mais oui.
La NASA a dévoilé sa dernière sélection de candidats astronautes. 7 hommes et 5 femmes, dont certains pourraient être les premiers à aller sur Mars. Sélectionnés parmi plus de 18 300 aspirants, ces futurs astronautes comptent un boulanger, un chirurgien, 2 géologues, un océanographe, un professeur d'ingénierie électrique, un cadre supérieur de la firme SpaceX.
Oui, le boulanger, 4. Je le savais parce que c'est dans le quartier, vous savez,
dans le 11e arrondissement, un mec hyper sympa qui était avant dans l'informatique. Ensuite, il a élevé des chefs dans l'Arzac. Il me dit, je vais ouvrir une boulangerie sur Mars maintenant. C'est un truc assez cool.
En tout cas, un coiffeur là-haut, ça serait utile parce que les cheveux continuent de pousser, je pense. Voilà. La dernière française à Roland-Garros, Caroline Garcia, s'est inclinée hier en quart de finale. La Lyonnaise, 23 ans, a perdu en 2-7, 7-6, 6-4 face à la troisième joueuse mondiale, la Tchèque Karolina Pliskova. Et chez les hommes, eh bien, on retiendra surtout la défaite de Novak Djokovic. Le Serbe, tenant du titre, a été battu, balayé même par Dominic Thiem, l'Autrichien, en 3-7, 7-6, 6-3 et 6-0.
Est-ce que c'est au premier degré? Est-ce que c'est balayé, elle était balayée comme avec un balai comme s'il est...
Non, balayé, un balayage des cheveux, les coiffeurs, non, le Mars.
C'est,
quoi.
C'est le talent de Thierry Paret de procéder par imagination, voilà.
D'accord.
Oui, Arnaud, il va pas dire juste, elle a été battue, oh là là, de langage guerrier.
Est-ce qu'on l'aurait tapé dessus?
Oui, mais c'est trop,
je suis du genre à parler comme ça, en plus.
Elle a perdu. Non, il trouve, et c'est un des talents. Il en a d'autres de Thierry Paret.
Mais perdu, c'est pareil, c'est que par exemple, il serait dans une forêt, et puis il serait perdu.
Bon, écoutez, mon vieux, le fait d'avoir raison ne vous oblige pas à prendre la parole tout le temps.
D'accord, bah j'arrête de parler.
Parce que gloire à Thierry Paret. Moi, je fais partie d'une petite secte. C'est mon invité. Thierry, merci Thierry, l'invité de 7h06. Bernard Montiel, bonjour. Vous êtes un ingénieur français. Vous avez été renvoyé des programmes atomiques français. Vous avez essayé de travailler avec les Américains. Ça n'a pas pris. Vous avez voulu travailler avec l'Arabie Saoudite. Ça a été repoussé. Vous êtes aujourd'hui à la tête du programme nucléaire nord-coréen.
Je ne suis pas vraiment à la tête. Disons que je suis pas loin de la tête.
Bernard, vous êtes donc dans les instances dirigeantes, pour être précis, du programme.
Pas réellement dirigeante, je suis. Voilà. Disons que je suis pas loin de la direction.
Ah bah bon, vous êtes lié quand même au pouvoir nord-coréen. Vous vous occupez de tout ce qui est programme nucléaire. N'y a-t-il pas risque aujourd'hui à ce que ça soit pris pour de la provocation? Pourquoi ne pas consacrer l'argent du nucléaire nord-coréen à d'autres postes? Je pense aux boulangeries nord-coréennes, et entre autres.
Alors déjà, je suis pas que le nucléaire, c'est nucléaire et bouteille de gaz. Je suis dans tout un ensemble de départements.
Alors du gaz, oui, j'ai là effectivement gaz domestique, puisque beaucoup de foyers sont équipés de bouteilles à gaz domestique, ce qui permet d'allumer le petit réchaud nord-coréen.
C'est ça, le petit réchaud qui permet de faire cuire du poulet, enfin tout ce qu'on veut.
C'est ce que se demande Bernard Montiel, tous les auditeurs au fond. Qu'est-ce que mangent les Nord-Coréens à la maison? Quel est le plat national?
Et c'est là justement qu'on revient au nucléaire, parce que on tente en fait. On croit que c'est militaire, nos essais nucléaires, ce qu'on fait.
C'est culinaire.
On essaye les nouvelles cuisines au nucléaire. On essaye de faire des pop-corns, par exemple.
Alors, vous êtes aussi l'auteur aux éditions Pompeng de Peut-on rire de tout à l'heure du nucléaire?
Oui, tout à fait.
Et il y a de très très bonnes blagues. Bon, c'est un humour nord-coréen qui, si on connaît mal.
Des blagues, c'est. Ah, tu sais faire chier.
En plus de faire un petit humour avec un accent, c'est toujours gagnant, bien sûr. Alors, c'est intraduisible en français.
On ne sait pas traduisible.
On peut juste vaguement dire qu'il y a une allusion au cul d'un gros monsieur qui passe à un moment.
Surtout, on est dans la mythologie coréenne, c'est-à-dire, on est là, c'était le dieu du soleil, enfin, soleil, avec ce soleil qui tombe sur les pieds de la déesse, et puis là, sa robe s'enflamme.
D'accord. Donc, doit-on s'inquiéter du programme nord-coréen nucléaire?
Est-ce qu'on doit s'inquiéter, déjà? Peut-on s'inquiéter?
C'est ma question.
Vaut-il mieux pas attendre, tout simplement, que les choses se fassent?
C'est ma question.
Oui. Ah oui. C'est une belle question. J'adore vos questions. Est-ce qu'il faut s'inquiéter?
Peut-être terminons sur une petite blague nord-coréenne.
Chiosa, chichi,
je la connaissais autrement.
La chute. Vous êtes en train de sourire, vous êtes en train de rire de force. Vous vous forcez comme un enfant
pour
qui
moi.
Ferait comme les adultes et s'est remontré qu'il a compris la blague.
Autant pour moi.
Ok.
Souche, chichi, sosa, chio, sio, sicho. Ah oui, j'ai bien c'est ça. Non, ça n'a aucune prise sur moi. À tout de suite.
De 7h à 9h, j'écoute Plus près de toi.
Plus près de toi?
Il y a vraiment des interventions pertinentes.
Thank you ever so kindly. I'm here. The midnight
sun. Walking in the midnight. Voyez Arnaud, ça veut dire que c'est le soleil de minuit. Et ça le fait marcher.
Il marche dans le soleil de minuit?
Oui, sous, dans, enfin...
Pourquoi il ferait ça?
Je ne sais pas, peut-être qu'il est insomniaque, il est chez lui, plutôt que de rester dans son lit à se retourner, à dire, oh là 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 là, il est actif.
D'accord. C'est chouette finalement de voir qu'on peut marcher dans un soleil...
Oui, c'est de l'espoir pour les gens. Déjà, vous ne l'auriez pas trouvé, ça, soleil de minuit, couillon.
Non.
Vous auriez dit sous la lune.
J'aurais dit 1h du matin ou 2h.
Voilà, dit, sous la lune ou à 1h du mat. Et le mec, il a inventé c'est une image, évidemment. Cette image qu'il y aurait un soleil de la nuit.
Mais il y en a, en fait, parce que...
Arrête.
On peut dire que, par exemple, si j'ai fait un dessin de soleil, qu'il est sur mon bureau...
Non, je pense pas. Je pense que c'est la lune qui l'appelle le soleil. Parce qu'il ne se trompe pas, c'est de la poésie.
D'accord.
Je vous connaissais, Marie Missé ?
Non.
Comme ça, mais...
Marie Missé est à la tête de fondu de l'info, de personnages extravagants qui vont dénicher la page 11 dans le journal du jour, le petit site internet oublié, pour en tirer quelques informations qui sont d'habitude dans l'enfer de la bibliothèque. Bonjour Marie.
Bonjour Edouard, bonjour.
Et très mince, bonjour.
Et Arnaud.
Bonjour madame.
Arnaud et Marie et Armel M, ici l'équipe dans la Drôme. On est là dans la salle à manger de la maison qui fait aussi office de cuisine-salon.
Comment sont les couverts, les assiettes?
Oui, vous avez raison, bien sûr.
Très bien ciselés. Ils ont,
je pense que c'est du Guy de Graine, le type qui ne fera rien dans la vie.
C'est pas vraiment du Guy de Graine, c'est Jean-Marc de Graine.
C'est son fils.
C'est pas non,
on est bien. Puis alors, on a une vue sur ces montagnes magnifiques, sur les dentelles de Montmirail, pour ceux qui connaissent et pour ceux qui ne connaissent pas aussi. Et vous, Marie ?
Oh bah, pas de montagne de Montmirail de mon côté. J'ai la tête de Charlène Niou en face de moi, mais c'est très bien aussi.
Bien sûr.
Qui est derrière les machines.
Et c'est puis, elle qui réalise.
Il y a Emmanuel. Oui, alors ils sont là tous les deux. Il y a Emmanuel et Charlène. Voilà.
Dit Manu le Malin.
Dit Manu le Malin, exactement. Derrière ces machines, c'est la même personne.
Dégoté ce matin.
Alors, une petite vidéo qui vient d'un site internet qui s'appelle Ulysse, qui est un chouette site. À la base, il faisait pas du tout de vidéos. Ulysse, il faisait que des longues histoires. Il faisait des enquêtes. Enfin, c'était en général très bien écrit. Alors, malheureusement, on n'arrive pas à attraper les gens sur Facebook avec de longues histoires. Donc, ils se sont mis à faire des vidéos, mais qui sont assez bien produites, un petit peu à la brute, mais avec des histoires qu'on voit pas trop ailleurs. Et là, hier, je regardais l'histoire de ces prisonniers en Thaïlande qui gagnent parfois leur liberté dans des combats de Muay Thai. Alors on se dit que c'est un peu les gladiateurs qui sont revenus. En gros, on offre la possibilité aux prisonniers thaïlandais dans certaines prisons de se battre contre des étrangers, par exemple, dans un ring. Ils pratiquent le Muay Thai, ce qui doit être une sorte de boxe thaïlandaise. Et alors, ces prisonniers, ils sont payés pour se battre, déjà, dans un premier temps. Et dans un second temps, ils peuvent obtenir des réductions de peine au bout d'un moment si ils mènent assez de combats. Alors, je ne sais pas si c'est comme dans Gladiator, s'ils gagnent contre tous les étrangers qui viennent. Est-ce qu'à la fin, ils sont libres? Je ne sais pas. Je ne crois pas. En tout cas, c'est présenté comme un programme social en Thaïlande. Ça permet de les éloigner de la drogue et de leur faire faire du sport. Mais on peut quand même se poser quelques petites questions sur le principe.
Et ça joue, je crois, dans de la soupe chinoise.
Ouais, ça se joue pas dans de la soupe chinoise, Arnaud Aymar. C'est carrément raciste. Carrément, c'est le mot. Et non, ça se joue sur des rings. Les images sont assez impressionnantes. Les mecs sont super musclés. Voilà, on les fait se battre devant un public, quand même, pour des réductions de peine. Ou pour un peu d'argent.
Je suis pas dedans ce matin, là. Je suis pas dedans, là.
Vous n'êtes pas dedans ? C'est pourtant pas intéressant, ce que je dis.
Non, oh. Non, c'est pas dans votre info qui est bien. C'est moi, je ne rebondis pas. Mais vous me dites hier, vous auriez dû dire, je l'ai lu ce matin, ça nous aurait fait palpiter au niveau de l'info.
Je l'ai lu hier vers 2h du matin. En pleine nuit.
Oui. Donc, vous vous posez des questions morales, bien entendu, Marie.
Je me pose quelques questions morales, et ça se trouve, j'ai tort, et ça se trouve, j'ai raison.
Non, pas du tout, j'ai raison de vous poser des questions. Il faut se poser des questions. On peut apporter des réponses, comme Arnaud Aymar aussi. Arnaud, vous avez noté quelque chose sur la recherche?
Oui, tout à fait. J'ai lu un article. En tout cas,
musclez votre voix.
J'ai lu un article. C'est un peu trop, non?
Lu
un article, en fait, pas réellement, j'ai lu le titre d'un article. Qui disait que les chercheurs, enfin, il y a une étude qui a été faite sur les chercheurs en général, et ils sont aperçus que plus les chercheurs avaient un physique désavantageux, plus il était performant au niveau recherche. Et alors, je sais pas quoi déduire de ça.
D'accord, mais vous n'êtes pas allé au-delà du titre.
Non, parce que je me suis dit, bon, ça va.
Mais ça, c'est un problème avec
c'est
vous.
C'est Nova.
C'est un problème avec vous, les jeunes, vous êtes superficiels, quoi.
C'est une sorte de souffrance interne, donc on peut.
Oui.
Moi, je me suis un petit peu inquiétée pour Atmen Khelif hier, parce que je suis tombée sur un article de presse qui disait qu'un homme s'était fait arrêter en allant à Valence. Alors, je me suis dit, ça se trouve, Atmen est en train de vous rejoindre à Valence, parce qu'il récitait sa pièce de théâtre en anglais dans les toilettes du train, et que dedans, il y avait des mots qui semblaient dangereux à un contrôleur qui est passé, qui a fait arrêter le train, les services secrets sont arrivés pour tout checker. Bref, ça a fait un dawa pas possible et je me suis dit, comment va Atmen aujourd'hui? Est-ce qu'il vous a finalement rejoint ou est-ce qu'il est resté dans les toilettes de ce train à performer ou à perfectionner
son texte?
Non, Atmen
est à... Et c'est ni l'un ni l'autre. Atmen est à 7 sur un tournage dans la ville de Georges Brassens et Paul Valéry.
C'est un petit peu décevant. J'aurais aimé qu'il soit dans ces toilettes de train.
Merci beaucoup. À tout à l'heure avec Thomas Ribi.
De 7h à 9h, j'écoute Plus Près de Toi.
Plus Près de Toi?
On comprend pas tout, mais c'est bien.
Il y a beaucoup de pubs ce matin, donc on apprend des trucs. Martini, ils ont fait un beau poème en I, là, avec Paris, tout ça.
Materazzi.
Dolce Vitti. Et l'iPhone 7, le mec de Bouygues Télécom, il a dit une double bonne nouvelle. Vous employez cette expression dans la vraie vie, vous, Arnaud ?
Ça m'arrive. Des fois, je mets même des triples bonnes nouvelles.
Mais vous dites pas j'ai deux bonnes nouvelles, vous dites j'ai une double bonne nouvelle. C'est quoi la différence ?
Eh ben, c'est une bonne nouvelle à deux têtes.
Ah, elle inclut l'autre. Et le mec d'Afflelou, il a vraiment pété un câble. C'est lui le héros de ses pubs maintenant. Hein. Il parle, c'est extraordinaire. Mmh. Vous devriez faire des pubs pour vous-même aussi, des produits Arnaud Aymar.
C'est ce que je suis en train de faire, j'adore ce que je fais.
Et le crédit de la Nissan, je n'ai rien compris. Elle allait très vite, la dame. Elle m'a dit que le 11e mois, je gagnais 12 mois, moins 4%. C'était louche, elle allait très vite. Vous avez bien aimé, vous, la série de pubs, là ?
Moi, ce que je viens de bien aimer, c'est votre analyse.
C'est fin, c'était pertinent.
On était parti ailleurs, on était dans un.
Mais décalé.
Un montre. C'était très décalé.
Thomas Ribi, bonjour.
Bonjour.
Thomas Ribi, vous allez reprendre cette émission en main ?
Bah écoutez, franchement, c'est une question piège. Non, quand même pas. Vous vous rendez compte, elle serait beaucoup moins bien.
De quoi parlez-vous ce matin,
vous êtes bien gentil. Ben je vais vous dire, mais vous allez bien, ça va parce que
on est très bien parce que là on est la campagne se lève, vous savez, on est au milieu des vignes, des oliviers, des champs de lavande, c'est vraiment un peu miraculeux.
Sauf que j'aimerais bien pas être attaché.
Non mais chez nous c'est hyper rupestre aussi. Moi ce matin sur le chemin j'ai vu un corbeau qui mangeait un vieux bout de kebab. Il y a des images comme ça que vous n'avez pas, vous, à la campagne.
Oui, c'est pas les mêmes corbeaux, parce que nous, à Paris, il y a du corbeau, du pigeon, voire du moineau. Ici, on a de la mésange, il y a des tas d'oiseaux.
Oui, mais enfin, vous, vos corbeaux, ils ne mangent pas de kebab. Hein. Enfin, genre, faites pas non plus vos malins.
Bon, c'est pas parisien, le kebab, ça. C'est beaucoup régionalisé aussi.
Bref.
Des phrases à sous-entendre.
Par contre, les animaux sont parfumés au kebab et c'est vraiment.
Bon, arrête, fous-nous la paix.
Donc ce matin, je vais vous parler d'un scandale télévisuel, preuve que nous n'en avons pas le monopole ici en France. Ça s'est passé en Algérie la semaine dernière, dans l'émission Rana Rkemnak, je suis désolé pour ma mauvaise prononciation, ça veut dire « on t'a piégé » en arabe. Alors le principe de l'émission est simple, une personnalité est invitée sur le plateau, pensant être interviewée. Finalement, comme le titre de l'émission l'indique, elle est piégée, ha, on rigole. La semaine dernière donc, c'est l'écrivain Rachid Boudjedra qui est invité. Il pense qu'il s'agit d'une nouvelle émission littéraire. Rachid Boudjedra, c'est pas n'importe qui, c'est un ancien combattant de la guerre d'indépendance, grand nom de la littérature dans le pays. C'est un monsieur de 75 ans, extrêmement respecté, connu également pour avoir revendiqué son athéisme, ce qui est rare en Algérie. L'interview commence donc, et là démarre le piège. Deux hommes, déguisés en policiers, entrent sur le plateau armés. Ils prétendent que l'écrivain est convoqué au commissariat parce qu'il est accusé d'espionnage. Ils le menacent. Le vieil homme est visiblement effrayé, puis il l'oblige à prouver, disent-ils, qu'il est bien musulman. Il le force à répéter que Dieu est grand, puis à réciter la shahada, la profession de foi musulmane. Je vous rappelle que l'écrivain est athée, c'est de notoriété publique en Algérie. Boudjedra s'énerve, il veut quitter le plateau, mais les faux policiers l'en empêchent physiquement. Finalement, après une séquence longue, très 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 longue à regarder, tellement elle fait de la peine pour l'écrivain, les faux policiers font un grand sourire. « Ah, on vous a bien eu, c'était pour une caméra cachée !» Évidemment, ça n'a pas du tout fait rire Rachid Boudjedra, qui a décidé de porter plainte. Il a été soutenu par énormément d'Algériens, des personnalités et des anonymes, choqués par l'émission, d'autant plus que les caméras cachées hyper violentes sont devenues une spécialité locale. Ce qui se passe, c'est que la télévision algérienne s'est ouverte aux chaînes privées au lendemain du printemps arabe en 2012, ce qui est sans doute une très bonne nouvelle, mais ces nouvelles chaînes rivalisent d'idées horribles dans des émissions de caméras cachées. Celle impliquant Rachid Boudjedra n'est que la dernière d'une longue liste. Je vous ai donc fait une petite sélection du pire de ce que les Algériens ont dû subir à la télévision ces dernières années. Je vous ai sélectionné 4 exemples. Alors, premier exemple d'émission de caméra cachée.
Mais il n'y a pas une autorisation avant que ça passe. C'est pas en direct, c'est
le pire parce qu'en France, avec l'histoire
quand
de
ils font des caméras cachées qu'on veut pas que ça passe, ça ne passe pas.
Et ben Rachid Boudjedra, après cette séquence, il a téléphoné au patron de la chaîne en exigeant que la séquence ne soit pas diffusée, mais elle a quand même été diffusée. C'est-à-dire qu'il y a des systèmes de protection qui sont beaucoup moins rigides que chez nous en France, et au niveau du CSA, d'accord, au niveau de la loi. Donc en fait, c'est fou, les gens n'ont pas le choix, en fait. Leurs séquences sont diffusées. D'accord. Et les visages ne sont pas du tout floutés, évidemment. Donc je vous raconte quatre exemples, vous allez voir, c'est encore pire que ce qui s'est passé. Premier exemple, c'est un programme de caméra cachée qui s'appelle « Tu n'es pas mon épouse ». Le principe, un monsieur vient demander des papiers à la mairie, l'employé lui répond qu'elle a fait une erreur et qu'elle vient de le marier sans faire exprès avec une jeune femme qui est présente juste à côté. La jeune femme en question, c'est une comédienne, elle est complice du canular. Elle fait semblant de s'énerver. Quoi ? Mais moi, je veux pas me marier avec ce mec, il est moche, il me mérite pas, etc., etc. Les moches en question, piégés chacun leur tour, s'énervent aussi. Tous insultent la jeune femme et plusieurs d'entre eux la frappent au visage. On entend des rires enregistrés dans le montage, je vous jure que c'est vrai. Et à la fin, on annonce aux victimes du canular, ceux qui ont frappé, donc, que c'était une blague. Ah, c'était une caméra cachée. Bon, la comédienne a mal à l'œil, mais bon, qu'est-ce qu'on s'amuse. Rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle caméra cachée. Donc ça, c'est le premier exemple. Deuxième exemple, c'est de pire en pire. Une femme demande de l'aide à un passant parce que sa voiture est en panne. Là encore, c'est une comédienne complice de la production. Au moment où le passant se rapproche, six hommes costauds arrivent, ils se font passer pour les frères de la femme et ils menacent l'homme. « Quoi, tu dragues ma sœur ?» Il le bouscule, il lui crie dessus et à la fin, il le menace de l'assassiner. Alors certains hommes, victimes du canular, s'enfuient en courant, d'autres se mettent à pleurer à l'antenne, ha ha ha, on rigole, rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle caméra cachée, ha ha ha. Troisième exemple, c'est de pire en pire. Cette fois-ci, c'est une star qui est visée, c'est une sorte de surprise-surprise, mais hyper dégueu. C'est avec un comédien célèbre qui s'appelle Redouane Jadouani, et donc ce monsieur qui est en voiture se fait braquer par des faux gangsters qui le sortent de la voiture, qui le menacent avec une arme de guerre. Il le force à se mettre à genoux, les mains sur la nuque, le comédien est terrorisé, il pleure à l'antenne, il hurle qu'il n'a rien fait. Ah ah ah, mais non, en fait, c'était une caméra cachée, ah ah ah, rendez-vous la semaine prochaine, on s'amuse bien. Ça, c'était mon troisième exemple. Et enfin, dernier exemple, je pense que c'est le plus fou. Là encore, c'est une caméra
c'était
cachée.
C'était bien déjà, hein.
Là,
moi,
c'était
ça m'allait
pas mal.
Déjà.
Attendez,
c'était...
ça monte en puissance. Là, c'est une caméra cachée qui vise une personnalité, en l'occurrence, le footballeur algérien Majid Bouguerra, c'est un footballeur très connu. Il se trouve dans un café, soudain, plusieurs hommes déguisés en terroristes débarquent, menacent les clients. Ils sont armés, tout le monde est effrayé. Je vous rappelle qu'on est en Algérie où le terrorisme a fait des dizaines de milliers de morts dans les années 90. Les faux terroristes enferment plusieurs clients dans une pièce du café. Eux non plus ne sont pas au courant que c'est un canular. Puis ils emmènent, les mains attachées, les yeux bandés, le footballeur et deux autres clients en 4x4 dans le désert. Après une longue route, ils sortent les otages de la voiture, ils leur font croire qu'ils vont les exécuter et là, hop, ils leur enlèvent leur bandeau. Hey, c'était une caméra cachée. Ah voilà, donc tout ça est passé jusqu'à maintenant sans trop de problèmes. Tous ces programmes n'avaient pas outré l'opinion publique. Le scandale de Rachid Boudjedra, l'écrivain, compte tenu de son âge et de son aura, a fait un peu bouger les lignes pour la première fois en Algérie. Le patron de la chaîne qui a diffusé le programme a annoncé mettre fin à l'émission. En revanche, toutes les autres émissions de caméra cachée restent à l'antenne.
Merci beaucoup Thomas Ribi, vous nous avez redonné foi en l'humanité.
Avec joie, ça me fait toujours plaisir.
Hein, oui. Si vous avez d'autres idées, vous pouvez les fourguer.
Bah, j'essaie de donner quelques idées à la télé française.
Vous allez me suicider ?
Non, vous n'allez pas vous suicider, voyons.
Un gros béco et le journal de Thierry Paré, 7h32. Merci Thomas.
Avec plaisir.
Radio Nova.
Les Britanniques sont appelés aux urnes aujourd'hui pour le premier tour des élections législatives. Parti avec 20 points d'avance sur l'opposition travailliste, les conservateurs emmenés par Theresa May ont vu l'écart se resserrer sensiblement. La première ministre britannique joue son avenir, hein, et celui des négociations sur le Brexit. Elle est créditée son parti de 42% des intentions de vote contre 38% pour les travaillistes. Les conservateurs pourraient ne pas obtenir la majorité absolue. Ce que l'on redoutait s'est confirmé hier. L'attentat de Londres a fait 7 morts, dont 3 Français et non plus 2. Le corps d'un troisième ressortissant français qui était porté disparu depuis l'attentat a été retrouvé dans la Tamise. L'Iran qui n'est plus un sanctuaire, deux attaques coordonnées revendiquées par Daesh ont fait au moins 12 morts et plusieurs dizaines de blessés hier à Téhéran. D'abord au Parlement et puis au mausolée de l'Ayatollah Khomeini où deux kamikazes se sont fait exploser. Le groupe djihadiste sunnite n'avait jamais encore revendiqué d'attentat au cœur de l'Iran chiite. Le témoignage accablant de l'ex-directeur du FBI contre Donald Trump dans une déclaration écrite au Congrès et qui a été mise en ligne, James Comey explique que le président américain lui a demandé de faire machine arrière dans une enquête sur l'éphémère conseiller à la sécurité nationale de la Maison-Blanche, Michael Flynn. La Corée du Nord qui aurait procédé à de nouveaux tirs de missiles, la quatrième opération de ce type en 5 semaines. UFC Que Choisir annonce avoir repéré 23 produits cosmétiques mis en vente qui incorporent dans leur formule des substances rigoureusement interdites. L'association réclame le retrait de ces produits. Un de ces produits est un fond de teint qui contient de l'isobutylparabène. C'est un perturbateur endocrinien avéré interdit depuis plus de 2 ans dans l'Union Européenne. La NASA a dévoilé sa dernière sélection de candidats astronautes. 7 hommes et 5 femmes dont certains pourraient être les premiers à aller sur Mars. Ils ont été sélectionnés parmi plus de 18 300 aspirants. Et puis la dernière française à Roland-Garros, Caroline Garcia, elle s'est inclinée hier en quart de finale. La Lyonnaise, 23 ans, l'a perdue en 2-7, 7-6, 6-4 face à la troisième joueuse mondiale, la tchèque Karolina Pliskova. Chez les hommes, on retiendra surtout la défaite de Novak Djokovic, le Serbe, tenant du titre, hein, qui a été battu en quart de finale par l'Autrichien Dominic Thiem, 7-6, 6-3, 6-0, Thiem qui sera opposé à Nadal au prochain tour.
Dis donc, maître Coquin, voyez, quand il n'y a pas Tito, faites un peu de météo.
Ah, c'est vrai qu'on aurait pu mettre. Il va faire beau aujourd'hui, très beau.
Oh bah c'est précis.
Non mais il va faire beau partout en fait.
Merci Thierry. Il fait t-shirt, il fait maillot. Tout de suite dans les rues du marché de Nyons, ici dans la Drôme, c'est le marché du jeudi. Nous sommes avec Jacques Souvent.
Qu'est-ce qui se passe?
C'est lui le... Non mais...
Ah oui, Radio Nova.
Il est là monsieur. Le plus beau stand d'olive. Allez voir ce monsieur-là, le parrain.
Tout est encore dans les seaux, là.
Oh, non. On...
Non, non, vous moquez de moi. On attend la place ici. Il y a une quinzaine, vingtaine de personnes qui attendent. Qu'est-ce qu'il y a, monsieur?
Venez faire un tour au Pont-Romain ce matin. C'est le bordel complet. Il y a une bonne équipe. Franchement, on est au top.
Alors moi, je veux pas de bordel. Je veux des trucs sympathiques. Des gens clean. Alors ici, ils attendent le placier, parce que vous êtes les derniers à avoir une place, là, en fait. Là. C'est un peu...
Les derniers, oui, depuis le mois de septembre, on est là. Mais il faut environ 70 présences pour avoir une place.
Ça. Et un petit carnet?
Non, un carnet, c'est eux qui l'ont là-dedans. Là.
Vous en êtes à combien, vous, là?
21.
Encore 70 présences, voilà, un peu à l'arrache pour avoir une vraie place.
Ouais, 70 présences pour avoir une vraie place. Vous en avez combien, vous?
Moi, j'en ai que 5.
Vous êtes toutes nouvelles?
Moi, je suis nouvelle, voilà. Je démarre une activité depuis 3 semaines.
Mais on s'est parlé tout à l'heure, vous avez un parcours complètement incroyable, parce que vous avez fait d'abord dans la crèmerie, et ensuite, vous étiez capitaine de frégate dans la Marine nationale, et aujourd'hui, vous dessinez sur des pierres.
Oui, en fait, un parcours effectivement atypique, mais voilà, 32 ans dans la Marine nationale, après avoir travaillé 2 ans en gérance en crèmerie. Et j'ai pris ma retraite et je m'ennuyais, donc j'ai décidé de créer une entreprise et de créer mes produits, voilà.
Et c'est quoi ce que vend madame alors?
Eh bien, je fais des petites décorations en tissu, de la peinture sur galets, voilà, de l'artisanat.
Et le jeudi, vous descendez au marché de Nyons?
Voilà, je suis au marché de Nantes le jeudi, je vais aussi à Bédouin et à Buis-les-Baronnies. Ce sont des marchés provençaux qui sont fort agréables, l'ambiance est très sympathique. Mais la difficulté reste effectivement dans le placement et quand on démarre, c'est pas facile.
Alors quand on n'a pas de vraie place, c'est-à-dire quand on n'a pas 70 présences, on se met où?
Ben, c'est-à-dire qu'on est considéré comme passager et donc on attend que les placiers, donc la police municipale des communes, nous place en fonction des trous laissés par les abonnés où on occupe les dernières places.
Parce que là, sinon, c'est des endroits où il n'y a pas assez de passages, là où vous êtes installés.
Voilà, alors effectivement, moi je suis toute jeune dans la profession, si je puis dire, mais à entendre mes collègues plus anciens, le placement est crucial en matière de vente.
Alors dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on fait? On peut un peu alpaguer le chaland, on peut dire « Allons-y, ils sont beaux mes tissus, elles sont belles mes pierres ou... »
Ça, c'est pas mon genre. Après avoir eu une discipline militaire pendant 32 ans, je n'ai pas cet esprit. Voilà.
Mais est-ce que dans la marine marchande, vous aviez peut-être un
vocabulaire...
La marine nationale, pardon, excusez-moi. Est-ce qu'il y a des termes marins qui pourraient servir? Qu'est-ce qu'on dit? On crie plus des choses. Arponguer le grand flouk, floucarder les bitounes, lucharder la banille, non?
Capitaine!
Non.
Capitaine!
Je pense que ce serait peut-être un petit peu déplacé sur des marchés...
Déplacer,
justement, peut-être que le fait d'être déplacé, ça va faire une originalité.
Oh. Oui, puisqu'on parlait de place, peut-être que par le déplacement, vous pouvez obtenir votre place.
C'est possible, mais ce n'est pas mon genre. Voilà,
Est-ce que vous diriez, madame, une phrase de marine nationale, une phrase en langage de marine? Dites-moi
bon
une
vent,
phrase.
Bon vent, bonne mer.
C'est beau, ça. Voilà. Bon vent, bonne mer. Qu'est-ce que vous pouvez nous souhaiter d'autre?
D'avoir une carrière aussi riche que moi. Voilà, j'ai eu beaucoup de joie, mais j'ai eu quelques galères, c'est le cas de le dire. Mais voilà, je suis contente d'avoir eu la carrière que j'ai eue.
Vous êtes contente d'être vous-même?
Tout à fait.
C'est important. Vous êtes contente d'être vous-même?
C'est un policier, le placier?
Oui, c'est la police.
Oui, c'est un policier municipal.
Ah, d'accord.
Merci, madame. On vous souhaite d'obtenir une très bonne place dans le marché ce matin. Jack, vous êtes aussi à la recherche du parrain. J'ai entendu qu'il y avait le parrain des olives.
Oui, il vient de fermer sa porte, il s'est avancé parce qu'il n'avait pas sa place. Ah si, il démarre, il ouvre tous ses seaux, qu'est-ce que c'est? C'est des seaux, et il va dérouler toutes ses petites olives.
Exactement, donc le stand sera prêt d'ici une petite heure. Voilà. Alors, dans les premières étapes, ça va arriver dans une heure, repasser, et ça sera le plus beau.
25 tonnes d'olives.
Exactement, 25 tonnes, il y a de la marchandise, il y a de tout pour Nyons.
Pour Nyons.
Il ne faut pas vous la faire à l'envers, j'ai l'impression. Le parrain des olives. Cueillette, vente, influence, manipulation.
C'est combien des olives?
Noyau. Olive verte, olive noire. Olive de bouche, olive pour l'huile. Au marché ce matin. À tout de suite.
7h-9h, Edouard Baer.
Plus près de toi.
Plus près de toi.
Ils ont la niaque, ces jeunes.
Oui, tout à fait.
Ici, à Ventrolles, à quelques kilomètres de Nyons, là-haut sur la route des Crêtes, où on voit On voit toute la région jusqu'aux dentelles de Montmirail, jusqu'au creux de la vallée, la petite ville de Nyons dans laquelle Jack souvent arpente le marché. On a un voisin qui s'appelle Charles Haas. Bonjour Charles Haas.
Bonjour.
Charles qui est à la fois apiculteur, qui est ancien second prix du conservatoire de contrebasse et qui tout à coup s'est installé juste à côté. Charles, vous êtes d'ici au départ ou pas ?
Oui, oui, je suis tout à fait de la région. Je suis né à Montélimar et j'ai grandi à Roussel-les-Vignes, là, le village voisin.
Alors, vous avez, évidemment, comme tous les couillons, on me dit Montélimar, je pense nougat. Vous en faites du nougat.
Oui, tout à fait. Ouais, je vous ai apporté un petit exemplaire d'ailleurs.
Donc, tous les produits du miel. Donc, vous avez combien de ruches ici ?
On est des petits exploitants, des petits apiculteurs. On a une centaine de ruches, mais bon, ça occupe déjà.
C'est pas beaucoup. Je me rends pas compte. C'est quoi un gros apiculteur ?
Non, un gros apiculteur pour avoir 400-500 ruches, mais bon, nous, on produit de la gelée royale, donc il y a beaucoup de travail sur un petit nombre de ruches, donc on a réduit un petit peu pour avoir le temps de tout faire.
Alors comme beaucoup de gens, on entend parler parfois des choses que par les catastrophes qu'elles rencontrent, donc là on entend parler des abeilles que par la disparition des abeilles. Vous qu'est-ce que vous constatez là-dessus ?
Mais oui, on a de plus en plus de difficultés quand même dans le métier pour conserver des abeilles en bonne santé. Hein ? On lutte pour conserver un cheptel insuffisant et voilà, on élève chaque année de nouveaux essaims pour reconstituer le cheptel qui est un petit peu amputé chaque année.
On dit élevage, c'est drôle, on dit cheptel comme pour les ovins ou les bovins.
Oui, c'est vrai, tout à fait. Ouais. Ben oui, on est quand même, on a domestiqué plus ou moins quand même un animal sauvage. Hein.
Le soir, il y a des troupeaux d'abeilles qui rentrent. Allez, vas-y, avec des chiens. Des chiens pour abeilles, on imagine des scènes. Ouais. Donc la journée, comment ça se passe la vie d'une abeille ? Elles vont butiner la journée ?
Oui, dès l'aurore, hein, dès que la température est suffisante. Là, en ce moment, elles sont à l'aube sur les tilleuls. Elles butinent les fleurs de tilleuls, ça bourdonne très fort dans les tilleuls.
Et donc le problème des abeilles, ce sont les plantes qu'elles vont butiner ?
Le problème, la préoccupation, vous voulez dire ?
Non, ce qui fait qu'il y en a moins, c'est quand la nature est plus polluée autour.
J'ai tendance à penser que c'est une somme de différents stress, en fait. Il peut y avoir... les aléas climatiques d'abord, vous savez que les choses changent, hein. Donc on a des sécheresses récurrentes et ça crée des ruptures dans l'approvisionnement des ruches, donc ça, elles ont des stress récurrents. Il peut y avoir certains parasites aussi, on a un varroa, c'est-à-dire c'est le pouls de l'abeille qui vient d'Asie et qui pose énormément de problèmes à l'apiculture. Et puis, bien sûr, on peut penser aux pesticides lorsqu'ils sont mal appliqués par les agriculteurs. L'ensemble de ces stress, peut-être des fois, font déborder. C'est la goutte qui fait déborder le vase, et là, la colonie va mal à un moment donné.
Alors c'est marrant de dire stressé. On voit bien des éleveurs de plus grosses bêtes. Ils connaissent bien leurs animaux. Ils ont dit oh là là, mes vaches, elles vont pas bien. Mais qu'est-ce que tu nous fais comme Sinarmel ? Ah, de parler plus près du micro. Mais pour les abeilles, est-ce que vous vous sentez quand elles rentrent le soir dans les ruches ? Vous sentez des nervosités ? Vous sentez quand elles vont bien ?
Non. C'est plus un état général de la colonie et à plus long terme, on constate que on perd des abeilles ou voilà, c'est la vigueur générale quoi, qu'il n'y ait plus. Non, le stress. Non, quand on les visite, bien sûr, on les stresse le minimum, mais non, c'est à plus long terme que ça se passe.
On va écouter, parce qu'à côté de votre activité d'apiculteur, comme ça ne vous suffit pas, il vous faut plus d'activité, vous êtes un nerveux, vous avez aussi un groupe de jazz qui s'appelle Chère Madame.
Oui.
On écoute un morceau que vous avez fait.
Keep an open heart is both a lock and
Charlas, on reconnaît votre toucher de contrebasse. Comment s'appelle la chanteuse ?
Elle s'appelle Chloé Rigal.
Chloé Rigal, chère madame, vous jouez où ?
On joue dans la région, là, on est programmé au mois de juin dans différentes dates aux alentours, à la fête de la musique à Nyons. Voilà, on pourra nous écouter.
Quand est-ce que vous vous retrouvez pour jouer ?
Quand on peut, avec les emplois du temps de chacun, on essaye une fois par semaine, mais enfin, c'est pas toujours facile, voilà.
C'est que, j'ai aucune idée comment c'est une journée d'apiculteur, qu'est-ce que réclament les abeilles ? Il faut faire quoi ?
Eh bien, oui, on essaye d'être au plus proche de leurs besoins. Donc, là, cette saison-là, on contrôle qu'elles ont suffisamment de place pour stocker le miel. On est en pleine saison de récolte, donc là, il faut surveiller qu'elles aient de la place.
Donc, le matin, on se lève.
Ouais, on va pas les voir tous les jours. Je vous parlais de stress.
Quoi ?
Si on va les voir tous les jours, elles sont stressées.
Oui. Voilà. Ah, vous allez pas les voir tous les jours, mais alors vous faites quoi le reste du temps ?
Ah ben, j'ai aussi des oliviers, donc il faut entretenir les oliviers, il faut vendre, il faut.
Oui, c'est ça. Ici, les gens, je parlais à quelqu'un hier, il fait lavande, olive et vin. Vous, c'est olive.
Olive, miel, gelée royale, voilà.
Et la gelée royale, rappelez-moi, par rapport au miel ?
Eh bien, ça n'a rien à voir. C'est un petit peu comme vous parliez des bovins, c'est un petit peu le lait. C'est le lait des abeilles. Donc, c'est une substance produite par les abeilles. Ça n'est pas une récolte. Donc, ça sert à nourrir l'ensemble des larves de la colonie et la reine pendant toute sa vie.
Ah, c'est leur nourriture à elles qu'elles
voilà,
d'accord.
Voilà, c'est un substitut protéiné. C'est un très concentré, voilà. C'est une substance très, très concentrée pour nourrir toutes les larves. Voilà.
On était avec Charlas, notre voisin de Ventrolles, qui va regagner sa maison à travers les vignes pendant qu'Arnaud et Marthe tirera des coups de semonce de fusil en l'air. Merci Charlas.
Merci.
Et vous venez
faire
un live la semaine prochaine.
Ah ben, c'est
ici
volontiers.
Sur la terrasse. Merci beaucoup.
7h, 9h, plus près de toi. Plus près de toi.
Plus près de toi. 7h, 9h, une actualité extrêmement actuelle.
Vous voyez, Jean-Noël Mistral, c'est malin leur truc de Martin. Ils n'ont pas le droit de faire de la pub pour l'alcool le matin, donc ils font semblant de présenter un événement auquel on n'a rien compris.
Ben oui, mais moi je n'entends pas les publicités. Même si elles arrivent dans mon lobe, je les entends pas.
Jean-Noël Mistral, poète des Garrigues, qui est ici, on est ici chez vous, en Drôme provençal. Présentez-nous notre invité pour un enfant, un poème, la jeune Thelma.
Eh bien, la jeune Thelma est une enfant d'un âge avancé pour un enfant, puisque tu as quel âge ?
8 ans.
Elle a 8 ans. Elle a une taille de 1m32, 1m23.
Non, on me fait signe que non.
Comment ?
Le staff de Thelma me fait signe.
De combien ?
Je ne sais pas.
Ah, bon, on ne sait pas. Et elle est vraiment très mignonne, on dirait une sorte d'Alice au Pays des Merveilles, mais plutôt brune. Et en même temps, légèrement princesse, je dirais une princesse perse.
Tu te reconnais dans ce portrait, Thelma, ou pas, que dresse Jean-Noël Mistral de toi ?
Non.
Moi non plus, j'avoue, Jean-Noël, peut-être aller prendre un café, on vous recevra après le journal de Thierry Paré.
D'accord.
Merci. Thelma, tu es venue hier voir un peu comment ça se passait avec ta copine, et tu trouves que ça s'est bien passé, donc tu t'es dit, ok, je reviens aujourd'hui ?
Oui.
T'as eu peur, ça serait quoi ce mal se passer ? C'est si elle avait été tapée, par exemple ?
Non.
Ou si on lui avait fait boire du vin ? Non, alors que pas du tout, ça s'est bien passé.
Oui.
Et toi, à quelle heure je dois te libérer pour aller à l'école ?
À 9h.
Ça t'arrangerait de ne pas y aller ?
Je sais pas.
Il y a quoi ce matin ?
Ben, la sport, la danse, la chant.
Ah oui, bon, dis donc, c'est plutôt sympa comme école. Et tout ce qui est maths et tout ça, ça a été annulé ?
Non.
Parce que quand même... Mais en juin, c'est toujours un peu cool, quoi, non ? En juin, on laisse un peu tomber les choses trop sérieuses, non ?
Mm.
On fait des activités. T'es à Nyons, toi, à l'école ? Tu es où ?
À Saint-Maurice.
Je vois pas où c'est.
C'est un village à côté de Nyons.
Combien de temps tu mets d'ici ?
10 minutes.
Qui t'emmène ?
Maman et papa.
Les deux ?
Soit maman et soit papa.
Non, je veux dire, l'école des fans, parce que les parents sont là derrière en train de filmer. J'ai l'impression d'être Jacques Martin, pour ceux qui se rappellent, bien sûr. Alors, ma chérie, tu nous dis un poème très très beau d'Éluard, Liberté, par Thelma.
Liberté, sur mes cahiers d'écolier, sur mon pupitre et les arbres, sur le sable, sur la neige, j'écris ton nom. Sur toutes les pages lues, sur toutes les pages blanches, pierre, sang, papier ou cendre, j'écris ton nom. Sur les images dorées, sur les armes des guerriers, sur la couronne des rois, j'écris ton nom. Sur toute chair accordée, sur le front de mes amis, sur chaque main qui se tend, j'écris ton nom. Et par le pouvoir d'un mot, je recommence ma vie. Je suis né pour te connaître, pour te nommer. Liberté, Paul Éluard.
Magnifique poème écrit pendant la guerre, bravo. Et par le pouvoir d'un mot, je recommence ma vie. Je suis né pour te connaître, pour te nommer. Bravo Thelma, tu l'as très bien dit.
Merci.
On t'embrasse très très fort, Jean-Noël.
Moi je suis perdu d'émotion.
De reconnaissance vineuse, on pourrait dire, en parlant de vous.
On pourrait dire ça, mais dans un autre sens, je trouve que tu l'as tellement bien dit, ce poème, que j'ai l'impression de voir le mot liberté écrit partout. Et comme si tu l'avais écrit partout, et j'ai l'impression qu'il est inscrit partout, dans nos gènes, à l'intérieur des murs, sur le papier tapissé.
Vous l'écrivez AI à la fin, Jean-Noël.
Oui, puisque liberté, ça permet d'ouvrir le mot.
Salut Thelma, belle journée.
Oui.
Le journal de Thierry Paré.
Radio Nova.
C'est une découverte incroyable, exceptionnelle. J'ai plein d'autres adjectifs. Une équipe internationale de chercheurs vient de découvrir au Maroc 5 individus, en fait 5 crânes d'individus dont les restes dateraient de 315 000 ans. Autrement dit, si la datation de ces restes se confirme, ce seraient les plus anciens représentants connus de notre espèce moderne. Il s'agit non seulement d'une découverte qui bouleverse notre savoir sur l'âge de l'Homo sapiens, on l'estimait jusqu'à présent à 200 000 ans, donc là 315 000 ans, mais surtout elle déplace nos origines vers le nord-ouest du continent africain, en l'occurrence donc le Maroc, alors que jusqu'à présent, les fossiles les plus anciens trouvés provenaient d'Afrique du Sud ou de l'Est. Alors de là à dire que le Maroc est le nouveau berceau de l'humanité, il y a quand même un pas qu'on va pas franchir, tout simplement parce que nous ne sommes pas à l'abri d'autres découvertes dans d'autres coins de la planète, en Afrique notamment aussi, où des pans entiers du continent n'ont toujours pas été explorés. Theresa May, elle, va explorer le mystère des urnes. Les Britanniques sont appelés à élire leurs députés aujourd'hui, premier tour donc ce jeudi, parti avec 20 points d'avance sur l'opposition travailliste. Les conservateurs, emmenés donc par la première ministre britannique, ont vu l'écart se resserrer sensiblement, crédité de 42% des intentions de vote contre 38% pour les travaillistes. Les conservateurs pourraient ne pas obtenir la majorité absolue. Ce que l'on redoutait s'est confirmé hier. L'attentat de Londres a fait 7 morts, dont 3 Français et non plus 2. Le corps d'un troisième ressortissant français qui était porté disparu depuis l'attentat a été retrouvé dans la Tamise. L'Iran, qui n'est plus un sanctuaire, 2 attaques coordonnées revendiquées par Daesh ont fait au moins 12 morts et plusieurs dizaines de blessés hier à Téhéran. D'abord au Parlement et puis au mausolée de l'ayatollah Khomeini où 2 kamikazes se sont fait exploser. Le témoignage de l'ex-directeur du FBI contre Donald Trump, témoignage accablant dans une déclaration écrite au Congrès, et qui a été mise en ligne, James Comey explique que le président américain lui a demandé de faire machine arrière dans une enquête sur l'éphémère conseiller à la sécurité nationale de la Maison-Blanche, Michael Flynn. La Corée du Nord aurait procédé à de nouveaux tirs de missiles, la quatrième opération de ce type en 5 semaines. La NASA a dévoilé sa dernière sélection de candidats astronautes, 7 hommes et 5 femmes, dont certains pourraient être les premiers à aller sur Mars sélectionnés. Ils ont été sélectionnés parmi plus de 18 300 aspirants. Je vous resserre un peu d'isobutylparabène. Ben c'est possible, parce que le produit est certes interdit en Europe depuis 2 ans. On en trouve dans un célèbre fond de teint dont on taira le nom. L'isobutylparabène est tout simplement un perturbateur endocrinien avéré. C'est UFC Que Choisir qui nous informe, qui nous alerte. L'association annonce avoir repéré 23 produits cosmétiques mis en vente qui incorporent dans leur formule des substances rigoureusement interdites. Novak Djokovic ne gagnera pas Roland Garros cette année. Et pour cause, il est éliminé. Le Serbe a été battu hier en quart de finale par l'Autrichien Dominic Thiem. Ce dernier sera opposé à Raphaël Nadal. L'autre demi-finale masculine opposera Stan Wawrinka au numéro 1 mondial Andy Murray. Chez les femmes, la dernière française à Roland Garros, Caroline Garcia, s'est inclinée hier en quart de finale face à la troisième joueuse mondiale, la Tchèque Karolina Pliskova. Short pour tout le monde aujourd'hui, il va faire très chaud.
L'invité de 8h03, Jacques-Alain Montiel, bonjour. Vous êtes journaliste spécialiste dans l'investigation, dans le reportage. Vous avez publié cette très belle enquête sur le trafic de ramasseurs de balles.
Tout à fait. Je viens donc de...
Vous arrivez de Roland-Garros.
De Roland-Garros pour vérifier mes études. Et c'est vrai, ça fait 3 ans maintenant que j'étudie ce trafic de ramasseurs de balles. Des ramasseurs de balles ont disparu, disparaissent depuis maintenant une trentaine, une quarantaine d'années, on ne savait pas quel circuit... tout ça était bien caché. Alors,
en fait, c'est-à-dire, si vous voulez, Jean-Bernard, je sens que vous êtes intimidé par le micro.
Je suis intimidé par le micro.
C'est tout à votre honneur, vous n'êtes pas une petite pute des médias. Vous n'êtes pas un homme à s'exprimer facilement. Vous êtes plus un homme des secrets, un homme des alcôves. Si on regarde bien les matchs à Roland-Garros, vous verrez qu'à chaque fois qu'on revient sur la joueuse ou sur le joueur, ce n'est plus le même ramasseur de balles qu'il y a derrière. Il y a une explication à
c'est
tout ça.
Il y a des trappes. Il y a des trappes. Il y a sur une centaine de ramasseurs de balles. En général, on en perd la moitié.
La moitié, c'est la moitié qui est remplacée ou qui disparaît bel et bien.
Vous le dites remarquable. Bien. Et ces ramasseurs, on s'est aperçu que ces ramasseurs de balles, alors on savait pas.
Il y a tout un circuit.
Alors ça passe évidemment par l'Italie, le circuit d'Italie.
Bien sûr, le circuit italien. Il y a le passage des Alpes, bien sûr. Il y a ces réseaux de passeurs, de ramasseurs de balles qui sont transportés dans des paniers, dans des fûts. Dans des bros.
C'est ça, dans des bros. Et ensuite, par des gazoducs, envoyés directement en Chine.
Alors,
c'est là qu'ils sont transformés.
On arrive en Italie. Le ramasseur de balles est encore en état de ramasseur de balles ou il est déjà compressé à ce moment-là?
Il est démonté.
Il est démonté. Attention, c'est très grave ce que vous dites. Le ramasseur de balles qui a été entier encore au moment de Roland-Garros passe par une trappe qui arrive porte d'Auteuil, qui fait le métro porte d'Auteuil, porte d'Italie. Et là, il est en Italie. Il est entièrement démonté et mis dans des sacoches.
Dans des sacoches. Et ensuite, il est mixé
en Chine. Vous êtes de la sacoche vous-même.
Pas trop.
Vous êtes du...
Non,
oui,
pas du sac
à main. À ce moment-là, il est démonté.
Il est démonté et envoyé directement dans des gazoducs jusqu'en Chine.
C'est important parce que beaucoup de jeunes veulent se lancer dans des carrières de ramasseurs de balles à Roland-Garros. Il ne faut pas, les jeunes. Passe ton bac. Alors,
juste l'idée, en fait, le scandale immense, c'est que...
Bah déjà, c'est pas mal, là.
Oui. Ouais, mais c'est que ces ramasseurs de balles sont mixés ensuite en Chine et à ce moment-là, ils sont mélangés à des produits... de la gelée, du porc.
Qui sont mauvais pour la peau, des produits qui sont mauvais, qu'il ne faut pas se mettre. Thierry Paré en parlait tout à l'heure, qui sert de cosmétique après.
Tout à fait. Et sont transformés en pâté.
En pâté de
ramasseur de balles.
Oui, mais
sont, eux, réexportés en Russie.
Oh là là, consommés. Quelle époque.
Avec du caviar.
Quelle époque. Mais très souvent aussi, vous me disiez, sous forme de crème solaire.
Oui, tout à fait. Parce qu'évidemment, c'est
donc les enfants,
ramasseurs de balles sont jeunes. Donc, évidemment,
on va partir, en tout cas, on va essayer de se remettre de toutes ces infos qui montrent qu'on vit dans un monde qui.
C'est pourri.
Qui est pourri. Qui a perdu. Le monde est pourri. Le monde est.
Il y a l'humus, et c'est pire que l'humus.
C'est pire. Bientôt, on ne pourra plus nous enterrer parce que nous avons trop de pollution en nous. Tout de suite, le marché de Nyon, ça fait que Jacques Souvent.
Ah voilà. Alors, il paraît que je. Pas complet, ça marche pas, ça.
Non, ça c'est pour les vendeurs de poissons. Ils y ont vendu pain. Donc on n'a pas à crier comme ça.
On ne crie pas le pain, on crie le poisson sur le marché de Nyons.
Non, mais parce qu'en fait, on a quelqu'un qui vient de la ville et qui arrive sur un marché du sud et il ne sait pas comment faut faire.
Mais pourquoi? Comment ça se fait, madame? Bonjour. Qu'on crie le poisson et on ne crie pas la viande, on ne crie pas le pain. Pourquoi est-ce que le poisson donne envie de crier?
Ça dépend des cultures. Ça dépend des cultures, ça dépend des endroits, mais ici, non, on ne crie pas nos produits. Les gens, ils marchent tranquillement.
Le monde n'est pas un vaste restaurant grec, oui, où on dit... Oui.
Ça dépend.
Et vous, madame, vous êtes dans le pain?
Voilà, c'est ça, je suis autour du pain, oui. Autour de toutes sortes de pains sur le marché de Nyon.
Alors, tout autour, mais rentrons dedans, quels sont ces pains, vous dites toutes sortes.
Eh bien, en fait, on fait du pain qui est fait au levain, qui est pétri avec un pétrin, mais qui est après façonné manuellement chacun.
Ce petit pain mosaïque, là.
Et j'ai des pains de toutes les couleurs. J'ai un pain qui a plusieurs couleurs. Ah alors, bon monsieur, il a flashé dessus. C'est le pain mosaïque, et du coup, il y a plusieurs pâtes à l'intérieur. Donc, ça veut dire que dans une seule tranche, vous avez plusieurs couleurs ensemble, quoi.
Voilà, alors c'est quoi des... ce sont des colorants alimentaires ou des colorants interdits?
Non, c'est on travaille avec des noix, avec du seigle, avec des farines complètes, des farines demi-complètes, avec des graines. Donc ça donne du coup une mosaïque de couleurs sur une même tranche.
Et des formes étranges aussi, vous sculptez votre pain?
Il y a des formes différentes, oui, on a des petits pains qui ont des sourires parce qu'on leur fait deux petits yeux et une bouche qui rigole. C'est le seul pain qui s'éclate de rire dans le four. Et puis sinon, on fait des pains avec
Donc
des
on
graines.
Peut rire avec la nourriture, madame. Souvent, on me dit, enfant, il ne faut pas rire avec la nourriture. Là, le pain lui-même rit.
Si, on l'appelle le pain joyeux, alors, voyez.
Si c'est la nourriture qui commence, on a le droit de rigoler. Si c'est la nourriture qui fait une blague, on a le droit de rire, alors.
Voilà, voilà, il faut garder le sourire quoi qu'il en soit. Je vais vous laisser parce que j'ai des clients, je suis désolée.
Merci, c'est vrai que nous pour le moment on ne vous rapporte pas beaucoup. Merci beaucoup chère
non,
madame.
Non, c'est pas une question de rapporter, c'est une question de disponibilité face à la personne en face. Et non pas
je me permets de vous faire un gros béco à distance.
Oui, d'accord, allez, bonne journée.
Bonne journée, Jack Souvent, toujours oui, sur le marché voilà. De Nyons.
Ouais, mon petit
on a eu le pain mosaïque, le pain qui sourit.
Oui, et puis ce pain mosaïque, il est vraiment chouette parce qu'on commence avec la noix, on finit avec le seigle.
Oui, je vous ai senti ému, alors que vous êtes plutôt un dur à cuire, puisque vous êtes un ancien des commandos parachutistes de l'Allier.
Ben oui, j'étais content quand j'ai rencontré le capitaine de frégate tout à l'heure, ça m'a un petit côté
ah
familier.
Oui, cette femme qui était capitaine de frégate.
Oui, et là je marche et je suis en face des melons. Des melons, ça ?
Oui, c'est du melon, ouais, apparemment, oui. Mais c'est le monsieur qui vend.
C'est ça ?
C'est lui, là, c'est pas moi.
C'est lui, le vendeur ?
Eh oui.
Et vous
êtes... Moi, je regarde, je prends le soleil.
Et on peut les toucher ou pas les melons finalement ?
J'ai froid ce matin.
Ouais, on peut les toucher les melons, monsieur.
Bah, y a tout un truc autour de ça. Est-ce qu'on peut toucher les melons ?
Je vais y aller. Monsieur, le melon, ça, le client, il peut palper, toucher ou c'est pas possible ?
Il peut, mais c'est pas obligé. Hein.
Non. Il faut renifler le melon. Comment on achète bien un melon ?
Comment on choisit un melon ?
Il faut le renifler ?
À l'odeur, oui. Oui, à l'odeur, s'il sent bon, c'est bien.
C'est vrai que c'est pas vrai, ça.
Si, il sent, il est bon.
Si on le touche pas, comment on peut le sentir, à moins de mettre la tête complètement dans le stand ?
Si, on peut le prendre, le sentir, oui.
D'accord. Oui. On le prend, on le porte au nez, mais il ne faut pas le palper, ne rentrez pas.
Voilà, on n'est pas obligé de le malaxer et d'y mettre le dos dedans.
Il ne faut pas se déchaîner sur le melon, quoi.
Voilà,
il
ne faut pas se déchaîner sur le melon, voilà, tout à fait.
Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vous dit, monsieur, tiens, je vous fais confiance, choisissez-moi deux beaux melons ?
Oui, bien sûr. Souvent.
Et est-ce que quand c'est un client que vous ne connaissez pas trop, c'est des Hollandais de passage, on lui faut que des melons un peu moins bien, on l'a tous fait ?
Non. Moi, les miens, ils sont tous bons.
Mais ils ne sont pas toujours prêts à... C'est comme les avocats, vous dites pour aujourd'hui, pour dans deux jours ?
C'est ça, voilà. Et j'en ai des mûrs et des moins mûrs. Tout dépend quand les gens le veulent.
Et c'est vous êtes vendeur ou vous êtes aussi... C'est vous qui les
produisez ?
Non,
moi, je suis vendeur, moi. Moi, je suis vendeur.
Très bien. Ouais. Jack Souvent ?
Oui, bah, je continue mon petit traveling.
Continuez votre travelling dans le marché de Nyons, cette avancée superbe de Jack Souvent, ancien commando.
On est dans l'abricot.
Il y a de l'abricot, du melon, du nougat. Quelle est l'ambiance générale en quelques mots, Jack Souvent ? Faites-nous vivre ce marché de Nyons avec votre fracon d'habituel.
Ça se lève doucement, là, madame. Ça fait beaucoup de radis, là, pour une journée.
Comment ?
Ça fait beaucoup de radis, là.
Non, pas du tout.
C'est bon ?
Beaucoup de radis, deux, trois melons à tripoter.
Les petites fraises se réveillent.
Les petites fraises se réveillent.
C'est la cerise, ouais.
Une capitaine de frégate.
Ouais,
un colonel hors tête. Un sous-préfet au champ.
La volaille.
La volaille sur pied.
L'ail frais de la petite mora des bois.
Le cochon veggie. Ouais. Allons-y, il est beau. Le marché de Nyons se réveille.
Le camion
et
recule.
Jack Souvent, ancien des commandos paras de l'Allier, se balade là-dedans comme un éléphant dans un magasin de porcelaine.
Oui, oui.
Il est où, mon champion ?
On avance, elle est petite. Qu'est-ce qu'on a ici, les brioches ?
Les pâtisseries de Julie.
C'est vous, Julie ?
C'est moi, Julie.
Attendez, j'arrive.
A tout de suite, pub et Jean-Noël Mistral.
7h-9h, plus près de toi. Plus près de toi.
Plus près de toi. 7h-9h, c'est vraiment ce qui se fait de mieux en ce moment.
Toujours en direct de Ventrolles au-dessus de Nyons, dans la Drôme, nous sommes dans la maison de Jean-Noël Mistral, le poète de l'émission, qui joue un peu, je dirais, à domicile, Jean-Noël.
Tout à fait, je joue, comme vous dites, à domicile, c'est-à-dire qu'on est là dans ce que j'appelle mon alcôve, ce que j'appelle mon écrin, ce que j'appelle l'endroit duquel je...
Source d'inspiration,
mais en même temps, ma protection, ma bogue.
C'est ça.
De la châtaigne que...
Oui, parce que vous avez... le monde extérieur, pour vous, est une menace. Et j'ai envie d'user d'une métaphore tennistique en ces temps de Roland-Garros. Vous jouez, vous êtes un poète fond de cours, Jean-Noël Mistral.
On ne m'avait jamais dit ça. Et je ne suis pas sûr que je me le prends bien, mais parce que de temps en temps, je vais au filet quand même.
C'est joli, en effet. Il y a certains de vos poèmes sont effectivement des grands cris poussés à la face de l'époque.
Oui, sauf que effectivement, je suis pas forcément toujours relié au monde, ce qui fait que ces cris peut-être se perdent dans la nuit et dans le jour aussi.
Pas perdu pour tout le monde, non. Puisque les chouettes et les hulottes sont un public de choix.
C'est vrai que avec les chouettes, on a un contact assez chouette. Dire.
Oui, sans mauvais jeu de mots, bien sûr que non. Oula, bien, Dieu nous en préserve. Non, dites-moi, poète naturaliste, dans une époque qui a perdu le sens peut-être de l'humain, qui s'est éloigné de sa nature, est-ce une position de repli ou au contraire une position d'attaque ?
Par rapport à quoi ?
Non, pardon, Jean-Noël, excusez-moi. Non, je voulais dire dans une époque, pardon, mais oui, c'est beau, il est bon de rire. C'est ce recueil de poèmes, vous disiez d'ailleurs, dans ce poème qui s'appelle oui. « Il est bon de rire », vous parlez du rire libérateur et vous parlez des forces de la joie.
La force, oui, c'est ces poèmes que j'ai dit, joie de sourire, joie de vivre, joie des dents, joie de la main.
Joie de la bouche de l'autre. Quoi de plus beau, Jean-Noël, je dirais, toujours en référence à votre œuvre, que de faire rire un enfant dans les champs.
C'est dingue, c'est ce que je préfère.
Souvent, quand
je vois un enfant, j'essaye de faire des galipettes.
Parce que vous suivez des jeunes vendangeurs en saison, et vous les suivez, vous les prenez dans l'idée de les faire rire.
C'est vrai, j'essaie de les faire rire, mais souvent ça ne marche pas.
Parce que c'est pas toujours la poésie, très souvent, Jean-Noël, vous trouvez que les gens prennent ça trop au sérieux dans le sens latin.
Je sais pas si on est en communique. Je sais pas si.
Quoi ? Non, mais Jean-Noël, on revient un petit peu à votre œuvre, à votre travail.
J'ai l'impression qu'on perd un peu le fil.
Jean-Noël Mistral, poète, qu'on entend souvent le mercredi, puisque souvent quand on reçoit des enfants, vous tenez à être là.
Oui, je tiens à être là. Pourquoi ? Pour.
Je comprends. Mais pourquoi d'ailleurs ?
Je sais pas. Je comprends ce que vous essayez de.
Non, Jean-Noël, qu'est-ce que.
Moi, je vis dans la nature. Je vis dans la forêt. Je vis de poussière. Je vis de bogue. Je suis la nature. Je me tapisse et à la fois je me tapisse de ce que je suis. C'est-à-dire à la fois mon animalité et l'animalité qui me transcende et en même temps qui me perd.
Mais vous êtes de Guingois.
Je suis tout, bien sûr que je suis de Guingois.
Comment pouvez-vous en
douter que je
suis pas de Guingois ? Est-ce qu'il faut se méfier des angles droits dans l'époque dans laquelle on vit, Jean-Noël Mistral, dans l'époque des ingénieurs, des ingénieuses ingénieurs, hein, dont parlait bien sûr Boris Vian ? Est-ce que vous pensez que, loin de tout ce monde formaté d'angles droits, de surface lisse, il faut un petit peu d'accident, il faut le petit trou, la fissure, la fêlure ?
C'est pas qu'il faut, c'est que cet angle droit, en fait, il n'existe pas, parce que si on le regarde de près, l'angle droit. En fait, il n'est jamais vraiment droit, parce que cet angle, il est arrondi, finalement, quand on se rapproche. C'est que la nature elle-même, elle est au-dessus, pas au-dessus, mais elle est à l'intérieur de nous. On aura beau faire des angles droits, au bout d'un moment, les fougères, les tiques, les oies sauvages vont passer par là, et cet angle droit, au bout d'un moment, il va se transformer.
Voilà. En saison. Seulement en saison pour les oies sauvages. Sur la route de la migration. Parce que vous me disiez, pas de frontières pour les oiseaux.
Pas d'autres frontières, bien sûr, parce que les oiseaux, quand ils voient la frontière, eh ben quoi ?
Ils s'en moquent. D'un rire libérateur.
Oui, et ils regardent souvent l'horizon et continuent leur chemin. Et
pas de garde-frontière, pas de papier pour les oiseaux.
Pas de papier pour les oiseaux, pas de papier pour le papier même. Si le papier était un homme, ben...
On demande ce que vous voulez dire, Jean-Noël, c'est de traduire pour les auditeurs. Autant on demande à un homme souvent ses papiers, autant on ne demande pas à des papiers son homme.
C'est ça, c'est exactement ce que je voulais dire. Je repense à une poésie que j'ai écrite, je sais pas si.
On va finir là-dessus.
Yak du désert de Gobi, toi qui n'as pas de poils et qui ressemble à un phoque. Là-dessus, on croit que c'est du surréalisme, mais en fait,
c'est vrai.
C'est vrai, c'est la vérité.
Merci Jean-Noël. On était au-dessus de Nyons, dans ces montagnes qui appellent la sérénité chez Jean-Noël Mistral. Je suis disponible. On peut aller suivre des vendangeurs. Merci beaucoup.
Vous avez déjà vu les fougères,
Doucement. À tout de suite, on vous rend l'antenne et on va retrouver Marie Missé tout de suite après.
7h, 9h, plus près de toi.
7h, 9h, Édouard Baer.
Plus près de toi.
Plus près de toi.
Je trouve tout ça d'une vulgarité épouvantable. Ça me débecte.
On court après le temps qui nous échappe. Il est 8h28, la revue de presse de Marie Misset.
Qui c'est qui a dit qu'elle travaillait pas, qu'elle fait que lire le journal? La revue de presse de Marie Misset.
Question. Est-ce que c'est des vrais oiseaux derrière vous?
Oui, oui. Il y a des, parce que vous savez, Carmelem a mis des micros sur la terrasse de la maison,
bah,
et
ça.
Nous sommes au milieu des champs. Voilà.
Très bien. Alors je me suis dit, de quoi est-ce que vous avez envie que je parle dans la revue de presse au réveil? De quoi vous, Agnons, les pieds nus dans l'herbe fraîche, le pollen dans les narines, vous avez envie de parler ce matin? Eh bien, la réponse m'a paru évidente. Comme elle a paru évidente lundi et mardi à l'ensemble de la télé française, vous avez envie qu'on parle de la lutte antiterroriste.
Ouais,
on adore ça. C'est dans un papier toujours truculent de Samuel Gontier, qui regarde la télé pour Télérama, qu'on apprend que à la télé, c'est le sujet préféré des chroniqueurs, des éditorialistes, etc. La loi travail, non merci. Le terrorisme, oui merci. Et donc, probablement, c'est aussi le sujet préféré des opinions également. Car oui, on ne dit plus les Français, apparemment. Si on en croit Christophe Barbier, on dit les opinions, comme dans la phrase, bien entendu, les opinions acceptent de voir des militaires au coin des rues. Samuel Gontier revient à plusieurs reprises sur le procès du modèle multiculturel britannique qui est repris sur toutes les télés. Je cite l'article qui cite la télé. Il y a un modèle qui est très différent du nôtre. Nous avons un modèle d'intégration républicaine laïque qui, rappelons-le, a permis à la France d'échapper à tout attentat, hein, bien sûr, depuis des décennies. C'est toute la différence avec le Royaume-Uni. Il y a un modèle, par contre, anglo-saxon, où on laisse les communautés vivre, vivre carrément, c'est odieux. L'absurdité, donc, qui vise à opposer un modèle britannique d'intégration contre un modèle français pour expliquer les événements de ce week-end au Royaume-Uni, alors que même les terroristes frappent les deux complètement aveuglément, ne saute apparemment aux yeux de personne sur BFM TV. Les opinions donc, hein, plus les Français ont accepté l'état d'urgence, je récite toujours Christophe Barbier, et ça, on l'a bien compris dans le gouvernement précédent, comme dans celui-là, non seulement ces opinions l'ont accepté, mais on le lisait sur Atlantico en décembre, elles en veulent plus, hein, car l'état d'urgence, c'est plus facile d'y rentrer que d'en sortir. C'était Jean-Frédéric Poisson, co-rapporteur de la commission parlementaire en charge du contrôle de l'état d'urgence, qui disait ça en décembre dans Atlantico. Jean-Frédéric Poisson, hein, donc ex-républicain, qui était candidat au présidentiel cette année. Le gouvernement donc a trouvé la solution pour sortir de l'état d'urgence. Autant faire rentrer toutes ces dispositions dans le droit commun. Voilà, c'est facile. Il fallait le pérenniser. Le Monde s'est procuré un texte de loi qui remplacera donc l'état d'urgence, qui devrait être abrogé en novembre, et qui en copie beaucoup d'articles mot pour mot. Assignation à résidence, prenez l'article 6 de l'état d'urgence, faites CTRL-C, CTRL-V. Perquisition administrative, pareil, CTRL-C, CTRL-V. Copier-coller en langage informatique, Edouard. Le point commun des dispositions, sauter la case justice, mettre la justice sur la touche, agir sans elle. L'article du Monde termine en disant que normalement les députés ne devraient pas trop sourciller à voter cette loi, mais que quand même, ça devrait à un moment titiller le Conseil constitutionnel. Quand on lit le portrait dans le Figaro aujourd'hui de l'homme qui a attaqué au marteau à Notre-Dame de Paris mardi soir sans faire de victime, cet homme qui était journaliste et doctorant algérien, doux comme un oignon, dit son directeur de thèse, qui se disait anti-Daesh, dont les neveux possèdent en Algérie un café pour accueillir les gens qui ne font pas le ramadan, et un homme toujours qui défendait les valeurs de la démocratie. On se dit qu'on pourrait élargir les dispositions de l'état d'urgence à l'infini sans que les filets attrapent ce genre de profil. En tout cas, la surenchère antiterroriste, pas toujours efficace, si ce n'est pour rassurer les opinions, toujours, nous disait encore Atlantico en décembre, fait penser au dernier numéro de la revue Esprit. Revue Esprit consacrée ce mois-ci au combat pour les droits de l'homme, où l'on est triste dans cette revue que « droit de l'homiste » soit devenu une insulte. On rappelle que c'est une expression de l'extrême droite qui a même été employée par Manuel Valls l'an dernier. Et surtout, on lit sans s'étonner l'analyse de 1986 de István Bibó, penseur politique hongrois, qui soutenait que la démocratie était menacée par le fascisme lorsque, à la suite d'un cataclysme ou d'une illusion, la cause de la nation se détache de celle de la liberté. Un choc historique entraînant la crainte de voir la liberté menacer la cause de la nation.
Merci beaucoup, Marie Misset.
De rien.
Police partout, voir. Justice nulle part. Le journal de Thierry Paret, 8h33. Ceux qui disent que c'est pas 8h30 qu'ils le prouvent.
et de 4. La Corée du Nord n'a visiblement que faire des menaces. Le pays vient de procéder à une série de tirs de missiles, la 4e opération de ce type en 5 semaines. Après des semaines d'attente, l'audition de l'ancien directeur du FBI, James Comey, doit avoir lieu ce jeudi devant le Congrès américain. Un événement exceptionnel retransmis en direct à la télévision. Dans une déclaration écrite au Congrès et mise déjà en ligne, James Comey explique que le président américain lui a demandé de faire machine arrière dans une enquête sur l'éphémère conseiller à la sécurité nationale de la Maison-Blanche, Michael Flynn. Les Britanniques sont appelés à élire leurs députés. Premier tour ce jeudi, des législatives donc. Parti avec 20 points d'avance sur l'opposition travailliste, les conservateurs, emmenés par la première ministre Theresa May, ont vu leur écart se resserrer sensiblement, crédité de 42% des intentions de vote contre 38% pour les travaillistes. Les conservateurs pourraient ne pas obtenir la majorité absolue. Ce que l'on redoutait s'est confirmé hier. L'attentat de Londres a fait 7 morts, dont 3 Français et non plus 2. Le corps d'un troisième ressortissant français qui était porté disparu depuis l'attentat a été retrouvé dans la Tamise. Le gouvernement avance masqué. Déclaration de Philippe Martinez à propos du projet gouvernemental de réforme du Code du travail. Le leader de la CGT parle aussi de méthodes scandaleuses. Selon lui, on annonce presque 50 rencontres, mais toute organisation confondue. Pour la CGT, ce sera seulement 3 réunions de 2 heures pour aborder tous les thèmes de la réforme. Il y a quelque chose d'absurde à laisser passer de classe en classe des élèves accumulant des retards. Déclaration de Jean-Michel Blanquer, le nouveau ministre de l'Éducation nationale. Il souhaite autoriser à nouveau le redoublement dès l'année scolaire 2017-2018. Le gouvernement précédent avait adopté en 2014 un décret qui rendait le redoublement exceptionnel. Gel coiffant, fixation blindée, Vivel Dops, prêt solaire pour enfants, billes pour les yeux, L'Oréal Men. Bref, l'association UFC Que Choisir a repéré 23 produits cosmétiques mis en vente qui incorporent dans leur formule des substances rigoureusement interdites. De l'isobutyl parabène, par exemple. C'est un perturbateur endocrinien avéré qui est interdit depuis plus de 2 ans maintenant dans l'Union européenne. Il y avait plus de 18 000 participants pour seulement 12 places. La NASA a dévoilé sa dernière sélection de candidats astronautes, 7 hommes et 5 femmes, dont certains pourraient être les premiers à se rendre sur Mars. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel a prononcé ces 2 sanctions à l'encontre de la chaîne C8 suite à des séquences controversées diffusées dans l'émission Touche pas à mon poste, lui interdisant de diffuser des séquences publicitaires pendant cette émission ainsi que 15 minutes avant et 15 minutes après sa diffusion. Novak Djokovic ne gagnera pas Roland Garros tout simplement parce qu'il a été éliminé hier, le Serbe tenant du titre. Il a été battu en quart de finale par l'Autrichien Dominic Thiem. Ce dernier sera opposé à Rafael Nadal et l'autre demi-finale masculine opposera Stan Wawrinka au numéro 1 mondial Andy Murray. La dernière française à Roland Garros, Caroline Garcia, s'est inclinée elle hier en quart de finale face à la 3e joueuse mondiale, la Tchèque Karolina Pliskova. Et puis il va faire très beau aujourd'hui, partout, très beau et très chaud.
C'est beau ça, c'est chaud. Et mais alors c'est beau, mais attention, parce que là vous parlez en tant qu'urbain, dans le monde de l'agriculture, s'il ne pleut pas, on n'est pas content.
Ah bah non, mais attends, moi je suis d'accord, moi je suis plutôt partisan de l'hiver, pour ne rien te cacher.
Mais c'est pas un mouvement politique l'hiver, vous pouvez pas être partisan de l'hiver.
Bah, j'ai essayé de le créer, mais ça n'a pas marché effectivement.
Tu vas pas voter pour l'hiver.
J'ai pas eu beaucoup de partisans.
C'était en Russie, le général Hiver, c'est lui qui gagnait toutes les batailles. On part dans, au marché de Nyon avec Jacques Souvent.
Oui. Je suis avec René Pelou. Alors il était sous casque. Là, il sert une cliente qui est. Alors, René Pelou, c'est 60 ans dans l'olivier. 60 ans dans l'olivier. À Venterol, quand vous montez pour aller faire le tournage du film, là, le champ de la vente, c'est lui. Hein, René? Parce que vous êtes revenu là, vous m'avez dit, dites-leur que je reviens, mais là vous êtes revenu.
Oui.
Alors, tant dans l'olivier, et ça se passe bien le tournage du film là à Ventrol?
Pas compris.
Vous n'avez pas compris?
Moi non plus.
Venterol. Oui. Vous êtes de Venterol, le champ de lavande en bas du village, c'est le vôtre.
Oui, c'est moi, oui.
Voilà, et vous aviez une idée de scène pour le film. Allez-y.
Mettez un satourier d'amant, avec du blouse en foulard. Il nous faut aussi un train de coupé de la vanne.
Il mais faudrait qu'on voit une dame, oui.
Pas avant de tuer.
Combien de femmes? Combien?
Bah, c'est tout, oui, c'est couché.
Donc là, on tourne un film, Raoul Taburin, un film de Pierre Godot, que oui, je salue, comme sais, ça après oui. Il me rajoutera des scènes. Et on est avec Suzanne Clément, la grande Suzanne Clément, et Benoît Poulevard nous rejoint. On tourne, vous auriez voulu, René, qu'on rajoute des dames avec des. Des foulards et qui coupent des
avec une blouse, des foulards qui coupent des lavandes.
Mais parce que vous voulez voir plus de femmes dans le cinéma, c'est ça, vous aimez bien voir des dames.
Des gens qui apprennent une séquence pour le film.
Avec des jupes un petit peu courtes.
Avec la vue du Ventrol.
Oui.
Comme le champ de lavande est un contrebas du village.
Eh bien, je vais leur dire, oui.
Oui, on pourrait tout prendre les dames qui coupent. Que la vue sur le village.
Mais c'est plutôt pour la lavande ou pour les dames que ça vous intéresserait?
Les deux.
Les deux, oui, vous n'êtes pas l'ennemi des dames, je crois comprendre, oui.
Ah bon. Non, j'ai dit,
même si on oublie la lavande, s'il reste les dames, on est content aussi, j'ai l'impression.
Ah, vous êtes con, oui.
Radio Vatican est parti. Là.
Radio Vatican est parti, oui.
Radio Vatican, oui, ah, oui, c'est oui. La voix. Vous êtes, allé à la... vous êtes allé vous confesser, René, dimanche dernier, ou pas? Vous êtes allé à confesse?
Oui, 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 pour Aigues-Bain.
Oui.
Et lundi, j'allais à la messe à Toulignan.
Et après la messe, vous êtes confessé, vous avez dit quoi au curé?
En tant que j'ai dit, je vous... je me confesse plus. Je suis en train de perdre, là. Je ne me confesse plus.
Bon, et alors là, vous vendez quoi, là?
Non, je vends des olives, de l'huile, de la vanille, du thym, et puis des cerises. Et des
ça marche bien
la... Et des bouquets de lavandaire, maintenant.
Ça marche voilà. Bien, là, ce matin, le marché?
Oui, c'est calme. Non, c'est que le tour, alors. Il faut venir à 10h du même jour.
Là, il est voilà. Trop tôt, les gens... C'est des lève-tard, oui. Quoi.
Voilà, oui, exactement, oui. Vous êtes où, à Ventrolles, là?
Oui, on est à Ventrolles, on est dans la maison, on a installé un studio dans la maison, là.
Ah, vous êtes...
Très bien. On fait la radio, là.
Oui, oui. Bon, écoutez, on se verra, non?
Eh bien, on se verra, puis on ira chercher ensemble et on fera le casting des dames pour la lavande, hein.
Oui, voilà.
Oui, salut René, merci beaucoup.
Bon, ciao, allez, bonne journée.
Bonne journée à vous. Qui est là? Mais qui est là? C'est ammoniacal?
Oui.
Ammoniacal?
Je suis ammoniacal, je suis moitié pingouin, moitié homme, moitié chiffon.
Tu nous fais ton petit générique?
Oui. Mignon, mignon, mignon. Mignon, mignon. Mignon, 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 mignon. Ammoniacal.
Bonjour, Ammoniacal.
Bonjour, et toi?
Qu'est-ce qui t'est arrivé aujourd'hui?
Eh bien, j'étais tranquillement... Il y a 2 semaines, j'étais tranquillement dans la forêt merveilleuse. Et je suis sorti de mon terrier en cherchant des plantes parce que j'avais des dartes. Alors j'ai voulu...
Tu avais quoi?
Des dartes sur tout le museau.
Oui.
C'est des,
comme des, petits
des
boutons,
des petits mais boutons. Plats.
Ah oui.
Des boutons qui n'ont pas eu le temps
de
boutonner, qui sont pleins. Et après, je me souviens de rien et je me suis retrouvé dans une grotte parce que j'ai été séquestré.
Oh là là.
C'est fou, hein?
Ah oui, c'est bien, c'est du délire.
Et j'ai réussi à me libérer, mais à force de rester dans la grotte, j'avais des stalactites partout. Et alors, j'ai été voir un ami qui m'a tout enlevé au marteau-piqueur. Oui. Alors, ce qui fait que... Bon, ça fait quand même...
Ça fait mal, oui.
Ben oui, après...
Ammoniacal, tu penses que...
Par contre, j'ai plus de tarte.
Ah ben c'est bien. Et tu penses qu'on ne peut pas faire confiance aux êtres humains, qu'on se retrouve séquestré, c'est ça que tu veux nous dire? C'est une métaphore sur le genre humain?
Je sais pas, parce que moi, tu vois, je peux tutoyer.
Oui.
Moi, tu vois, j'ai pas de recul, tu vois, parce que moi, c'est ma vie, tu vois. Et après, les gens, s'ils veulent interpréter quelque chose avec ma vie, ben... C'est bien, mais moi...
Toi, c'est un témoignage.
Je ne peux pas comprendre ce que je suis.
Trop petit.
Parce que je suis trop petit. Et je suis trop malheureux dans...
Ton petit générique.
D'accord. Mignon, mignon, mignon. Mignon, 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 mignon. Ammoniacal.
Ammoniacal, on te dit au revoir.
Moi aussi, on te dit au revoir.
Et on salue ta partie chiffon, ta partie pingouin.
Et ma partie homme.
Voilà. Et on ne les séparera jamais.
Non, parce que après ça voudrait dire que je serais mort.
Au revoir.
Au revoir.
7h-9h, plus près de toi.
Plus près de toi.
7h-9h,
Edouard Baird.
Je passe une matinée, mon Dieu.
Pioche à chaque coup de pioche. 8h49. Oh, il doit être réveillé depuis 6h. Antoine de Caunes, il doit faire du sport.
Le réveil d'un monument.
Vous pouvez pas laisser pioncer les gens le matin, non?
Réveillons un monument national.
Musique, littérature, télévision, cinéma, publicité, horticulture, élevage équestre. Quel champ culturel de notre époque Antoine de Caunes n'aura-t-il pas traversé? Comme un miroir déformant, rassurant, reformant de notre époque et de notre jeunesse éternelle, Antoine de Caunes est sûrement sur un vélo ce matin. Bonjour Antoine.
Bonjour Edouard. Oui, comment je suis allez-vous? Effectivement réveillé depuis très longtemps. J'ai terminé mes 18 séries d'abdos. Oui. Je suis fin prêt pour attaquer la journée. Je suis fin prêt pour être visité en tant que monument national.
Oui, oui, vous avez des heures d'ouverture Antoine.
Ah bah évidemment, de fermeture surtout, oui.
Oui, alors vous avez parlé de séries d'abdos. Est-ce qu'il y a sur quelle musique nous conseillez-vous de pratiquer nos ablutions sportives?
Alors, j'aime bien Camille, hein, j'aime bien, je trouve que c'est une bonne musique pour le réveil, encore que ça m'évoque une espèce de haka un peu sous Tranxène. Moi, oui. je serais plus pour... j'ai grandi en écoutant Hugo Frey, une chanson très entraînante qui disait « Debout les gars, réveillez-vous, il va falloir en mettre un coup ». En mettre un coup, hein, pas m'en mettre un coup.
Oui, enfin, en même temps, oui.
Ouais, les deux sont possibles, on va au bout du monde.
Oui. Voilà, ça, il se passera ce qui doit se passer en même temps, oui.
Oui, oui.
Qu'est-ce que vous pensez du virage ensuite Tipeee-Cansiou de Hugo Frey?
Alors, je suis plus circonspect, là. Là, oui,
il y a des doutes.
J'ai plus de réserves.
Oui, la partie équestre, oui.
Non,
la partie Buffalo Bill vous convainc moins, oui.
Non, je peux tolérer le moment Stew Ball, qui est une chanson qui reste très émouvante quand même.
Oui.
Mais non, je garde un petit faible pour ça. Vraiment, cette chanson de mise en route, de Debout les gars, réveillez-vous, il va falloir en mettre un coup. Et rien que de la chanter, ça m'éveille.
Ça, oui, je vous sens déjà beaucoup plus vous automotivé. Est-ce que l'eau vous aide à vous réveiller? Est-ce que vous êtes homme à vous précipiter sous une douche glacée afin de vous violenter vous-même?
Une douche, certainement, oui. Par souci d'hygiène, glacée, non, jamais. Jamais. Ça, c'est de l'ordre du masochisme.
Vous êtes un savon, oui?
Il paraît, je me suis laissé dire qu'il fallait il fallait boire beaucoup d'eau au réveil.
Mais vous ne l'avez pas pratiqué?
Non. Un litre d'eau au réveil, c'est au-dessus de mes forces aussi. Mais j'écoute plein de bons conseils, hein, toujours.
Est-ce que vous suivez aussi des conseils dans votre toilette intime? Est-ce que vous avez des déodorants sans aluminium? Des savons qui n'agressent pas la peau, pH neutre?
J'essaye surtout de trouver le déodorant parfait, c'est-à-dire celui qui ne laisse pas de traces blanches. Quoi. C'est une quête, hein.
C'est un souci parce qu'en pharmacie, il y en a un qui prétend être sans taches jaunes ou blanches et c'est faux.
C'est entièrement faux, bien sûr. En plus, vous avez entendu ce matin l'enquête de 50 millions de consommateurs.
Oui.
La plupart des produits d'hygiène sont à foutre à la poubelle.
Vous êtes bien crémé parce que vous avez une très belle peau, Antoine de Caunes, vous.
Je me crème raisonnablement. Je me crème raisonnablement, je m'hydrate raisonnablement, à part égale entre... produits alcoolisés ou non, et non, je ne fais pas d'effort particulier, je pense que j'ai...
Mais parce qu'à la télévision, on est souvent maquillé, on ne va pas mentir aux gens, après vous faites démaquiller, est-ce que vous mettez une petite, ensuite un réhydratant sur votre peau?
Non, rarement, très honnêtement, rarement, parce que vous voulez vraiment aller dans des détails très intimes, on nous surmaquille en télévision, on nous surmaquille, vous pouvez demander le maquillage Alpe d'Huez, par exemple. C'est vrai, vous avez mauvaise mine.
Oui, retour de Bahamas ou Alpe d'Huez, oui.
Oui, ensuite, on nous surdémaquille aussi, donc j'épargne à ma peau d'autres produits.
En tout cas, on va parler de solidesse, Antoine, mais je voulais aussi venir, on a aussi vu sur votre corps, on a eu la chance de voir vos magnifiques fesses sur l'affiche d'un film. Est-ce que c'est le vélo qui vous permet d'entretenir ce corps de rêve?
J'ai envie d'en parler à l'imparfait, parce que certes, ces fesses étaient appétissantes, mais c'était il y a une vingtaine d'années. Et depuis, hélas, la loi de la gravité a exercé ses effets. Elle vous séduirait moins aujourd'hui.
Oh, je pense que vous auriez dans certains quartiers de Paris, vous pouvez vraiment attirer des gens des deux, voire des trois sexes, Antoine. Hein.
Lesquels, Edouard?
Lesquels sexes?
Ouais, non, quel quartier?
mec qui veut y aller tout de suite. Antoine, nous nous perdons un petit peu parce que vous êtes là en tant que président d'honneur. Le mec qui cherche des adresses pour aller draguer. Solidé, c'est du 23 au 25 juin à Paris-Longchamp. Ça fait combien de temps, Antoine, que vous êtes président d'honneur de Solidarité SIDA?
Ça fait 24 ans, je crois.
24 ans,
oui, parce que aussitôt après que l'association ait vu le jour, Luc Barouet, président fondateur, est venu me trouver pour me demander la tête de gondole de ce très sympathique mouvement. Et voilà, j'ai accepté à cette époque-là. Mais c'est la 19e édition.
Il y a aussi depuis 1999. Il peut y avoir jusqu'à 200 000 festivaliers pendant les 3 jours. Quelle est la programmation cette année, Antoine?
Il y a plein de monde. En fait, il y a 80 concerts pendant 3 jours. Et surtout, on a l'avantage d'avoir 5 ou 6 scènes qui tournent, dont 2 ou 3 simultanément. Ce qui fait qu'il y a beaucoup, beaucoup de monde. Il y a évidemment des têtes d'affiche comme M avec son projet malien. Il y a Prodigy. Il y a Ibrahim Malouf, et puis après, il y a du reggae, il y a toute scène de Metals, et plein de petits groupes qui sont vraiment le son d'aujourd'hui. Ça va du hip-hop au rock, en passant par la dance, l'électro. Enfin, il y en a vraiment pour tous les goûts.
On ne peut qu'inciter les uns et les autres de se précipiter à l'hippodrome de Longchamp du 23 au 25.
S'y précipiter en courant même. Oui, bien sûr.
Dès maintenant, peut-être.
Dès maintenant, oui, parce qu'il y a un système de passe 3 jours ou 2 jours ou bien pour une seule journée, c'est au choix. Je crois qu'il ne reste plus d'ailleurs de passe 3 jours. Mais l'avantage de ce festival, outre le plaisir d'y être et la bonne musique qui s'y propage, c'est qu'il s'y raconte beaucoup de choses parce que c'est quand même un lieu militant et associatif et on invite tous les ans une centaine d'associations à venir partager leur expérience sur le site. Et c'est le mélange de tout ça qui fait que ce festival est particulier et ne ressemble à aucun autre.
En plus, de très belles nouvelles météo, oui. Sur le 23-25, ça va castagner au niveau chaleur. Ça va être très érotisé, l'ambiance, là-bas.
Et bien, nous serons tous en slip, alors.
Alors, Solidé du 23-25, appelé, réservé, un grand moment festif, passionnant, joyeux, musical. Et puis, on vous y croisera, Antoine Decaune. Comment vous serez habillé?
Ça dépend de la météo. Si vraiment vous avez la chaleur, il fait aussi chaud que vous le dites, je ne sais pas, je m'adapterai. Peut-être un pantacourt et une chemise hawaïenne.
Non.
Non,
pas un pantacourt, c'est
jamais,
pas vous,
promis,
ça.
Promis.
Non, Antoine. Autant je vous imagine en slip, voire en caleçon.
Non, je savais que vous avez...
Mais je pense qu'entre le caleçon et le costume, vous ne pratiquez pas l'entre-deux.
Non, je sais, vous avez entièrement raison. C'est tout là où
Antoine Decaune, élégant, en fixe-chaussettes ou en smoking. En habit ou en tout nu de soirée, ce fameux tout nu de soirée.
Ouais.
Qu'est-ce qui fait tant rêver les hommes et les femmes, Antoine Decaune, à votre avis, dans votre corps?
Il fut un temps, c'est l'élément postérieur que vous évoquiez tout à l'heure. Aujourd'hui, je serais tenté de dire en toute modestie un charme général.
Un charme général est une des meilleures haleines du cinéma de la télévision française.
Oui, c'est vrai, c'est ma réputation, ça.
Quand vous ouvrez la bouche, des rubans de rose défilent. On vous embrasse très fort, Antoine.
Moi aussi. N'abusez pas du rosé, là où vous êtes.
On sera solidaires avec vous.
Ça
le 23 juin.
Merci,
salut,
Edouard.
L'ami. Salut, merci.
7h, 9h, plus près de toi.
7h, 9h, Edouard Baer.
Plus près de toi.
Plus près de toi, une émission extrêmement racoleuse.
Au revoir à tous. On était en direct de Ventrolles, au-dessus de Nyons. On était heureux d'être avec vous. On se retrouve lundi matin en studio à Paris. Et voici maintenant Thierry Paret et Trente Glorieuses. Salut.
Edouard Baer.
7h-9h.
Plus près de toi.
Point final.